Philippe Gonin-Appa avait préparé voilà, une petite introduction sur l'histoire musicale du punk à Lyon. Et du coup, on va prendre un tout petit quart d'heure avant toi, Didier, pour que Philippe nous présente ça. Comme ça, on aura un petit cadre contextuel dans la tête toute la journée.
Bien, oui, c'est un petit peu impromptu parce que hier, je l'ai fait et on m'a demandé de le refaire aujourd'hui. Donc, je vais le faire un peu court quand même. Il y a un petit ronflement, mais on va voir ce que ça donne. En fait, de scène punk, je vais surtout parler d'une scène qui est une scène que j'ai connue et à laquelle j'ai participé, globalement qui se situe entre 83 et 88, qui était l'époque où, pour ma part, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Mouvement Perpétuel, que tout le monde a à peu près oublié à part moi et l'autre personne qui était dans le groupe. Mais je vais en passer un bout aujourd'hui, au moins comme ça fera... 50 personnes qui en auront entendu en plus. Mais je vais surtout parler aussi de toute cette scène qui n'est pas la scène la plus visible, mais la scène qui était un peu plus underground, même s'il y a des groupes qui étaient pour nous, et Denis est ici, quand moi je faisais ce groupe Mouvement Perpétuel, il y avait un groupe qui était un groupe qu'on admirait tous, et je le dis pas parce que Denis est là, mais parce que c'était vrai, c'était l'Enfance Éternelle, qu'on adorait vraiment, qui était un groupe... assez particulier, on va en écouter un bout aussi. Et au-delà, donc, bon, hier j'avais passé pour commencer en disant voilà, il y avait les trois groupes majeurs qui étaient les groupes connus, et au premier rang desquels il y avait évidemment Starshooter, parce que c'est celui finalement qui a fait la carrière la plus significative. Juste au niveau en dessous, parce qu'ils sont demeurés mythiques, il y a évidemment Marie et les Garçons, et puis après les Garçons, quand ils ont fait leur disque plus ou moins disco, qui a aussi marqué, et Marie en parlera tout à l'heure, et la fameuse histoire du polo Lacoste qui énerve beaucoup Patrick Vidal qui est toujours dans le circuit musical, tandis que Eric Fitoussi, qu'on va peut-être voir en vidéo si j'ai bien compris ce qu'a dit, je sais plus où il est passé, aurait pu être là mais n'était pas là aujourd'hui, est le patron je crois de la librairie Passage, hein, qui est rue de Brest à Lyon. Et puis l'autre groupe qui était aussi un groupe assez majeur, parce qu'ils avaient aussi sorti au moins deux maxi, qui était Electric Callas avec Jean-Gilles Callas, qui était quelqu'un d'un petit peu intouchable, mythique pour les gens de la génération d'après comme nous, et tout un tas d'autres personnes. Et parmi les groupes qui ont été un tout petit peu avant dans cette scène-là, il y avait par exemple Discipline. Je crois que vous aviez sorti un 33 maxi. Donc c'est ça, mais moi je l'ai eu en cassette, parce que les archives que j'ai sont en cassette. Des fois on arrivait à les acheter, des fois ils n'existaient déjà plus, parce qu'on tirait à fort peu d'exemplaires. Nous, Mouvement Perpétuel, on a fait deux cassettes par exemple. Une qu'on avait fait dupliquer à Saint-Étienne, comme quoi on ne faisait pas que la guerre à Saint-Étienne. Et qui a été vendu dans des magasins parce qu'il y avait des lieux mythiques. Et l'article qui est ici, qui est signé Gérard Bardavid, qui est donc le best numéro 161, qui, je n'ai pas mis mes lunettes, date de décembre 81, cite un certain nombre de groupes, parce que Bardavid voulait faire un de ses articles qui était dans Best, qui était Rock A, dans telle ville, telle ville, telle ville et telle ville. Donc j'ai Orléans, Nantes, Nice, en tout cas dans les numéros de Best que j'ai, et puis évidemment le Rock à Lyon, avec tout un tas de gens qui étaient dedans. Alors il nous fait toute une description, parce que aussi à l'époque, en 1981, venir de Paris, c'était prendre le TGV qui venait de se mettre en place, mais qui nous parlait de tout un tas de lieux, le NTPE par exemple, ou le Rock'n'Roll Mops, que moi je n'ai jamais connu. J'ai jamais joué là, j'y suis jamais allé non plus. La salle Molière, qui était un lieu où on pouvait jouer. Alors moi j'en ai des souvenirs de 72, 73, 74, enfin jusqu'en 80, parce qu'on passait les examens du conservatoire dans cette maudite salle Molière. Et j'ai fait le conservatoire assez suffisamment longtemps pour souffrir là-dedans, mais j'ai aussi fait le premier concert de Mouvement Perpétuel dans une structure qui avait été générée par la mairie, qui était celle de Francisque Collomb à l'époque, qui s'appelait la Maison pour la Chanson. Je crois que ça a duré deux saisons, ce truc-là, la Maison pour la Chanson. Et ça permettait à des gens de tout genre musical de pouvoir passer. Et nous, on a pratiquement fait l'une des premières dates de cette Maison pour la Chanson. On était passé en fin de soirée, mais il y avait un chanteur juste avant nous, il y avait eu un autre groupe un petit peu avant, etc. Et notre premier concert, c'était là, des concerts de 30 minutes. Il y avait aussi des magasins, j'y étais encore l'autre jour, qui, par exemple, étaient des lieux de rencontre, comme Bouledingue. Bouledingue qui existe toujours et qui est ouvert depuis 44 ans, me disait le patron qui est à la retraite aujourd'hui de Bouledingue, où on allait acheter des disques d'occasion et revendre nos disques quand on avait essayé de les écouter pour en acheter d'autres. Et puis des lieux aussi qui étaient assez mythiques, le Palais d'Hiver, avec le club qui était en dessous, le West Side, où là j'ai connu, j'y ai jamais joué, mais je l'ai connu. Et puis des magasins de disques, comme Musicland par exemple, qui était tenu par les frères Berthier, dont j'ai cru comprendre que l'un était aujourd'hui décédé et l'autre était en Afrique, et qui étaient des lieux où on allait, moi j'allais passer des après-midi complets là-bas à Musicland, à parler et à écouter des disques, et en acheter de temps en temps. Et on avait aussi un magasin de musique qui était Dossette Grange Musique, qui était en face de Musicland, où là aussi on passait des temps infinis, qui était dont l'un des vendeurs était Christian Jouissomme, qui aujourd'hui est à Guitar Center qui est Cours Lafayette, mais c'était des lieux où il y avait aussi un studio, et où par exemple des gens comme Rotache, enfin Yves Rotaché, qui était un des membres de Gunna Fool, travaillait et faisait un peu de son là. Et tout un tas de structures comme ça qui permettaient de pouvoir faire des concerts, les MJC de Houlin, qui est devenu le Klaxon après, et qui a été fermé récemment, si j'ai bien compris. Moi, je n'habite plus à Lyon depuis 4 ans. La MJC de Givor, qui était le long de l'autoroute et qui a été détruite, donc je pense qu'elle a été transportée ailleurs, mais qui était un lieu où on pouvait jouer. Et puis la presse, la presse locale, hein, les correspondants locaux suivaient plus ou moins ça, puisque quand on a joué à Givor, quand on a joué à Houlin, à chaque fois, on a eu un article dans Lyon Matin ou Le Progrès, à l'époque... Qui était en fait globalement, ça a changé la couverture, mais à l'intérieur c'était la même chose. Et donc tout ça, ça permettait de pouvoir faire tout un tas de choses. Et dans les groupes qu'il y avait là, parmi tous ces groupes, il y avait l'Enfance Éternelle qui a succédé à Discipline. Denis, je parle sous ton contrôle, avec un concept d'ailleurs assez intéressant qui tournait autour des enfants, de l'enfance, une enfance qui t'a toujours passionné d'ailleurs, puisque le dernier disque que j'ai, en tout cas de toi, ça s'appelle « Les enfants sont méchants ». Et il y a dans tes textes pas mal de choses autour de ça. Ah bah. Donc voilà Discipline, il me semble. J'ai fait des numérisations à partir de cassettes, donc des fois c'est un peu bas en niveau. Alors je vais faire un truc absolument abominable et frustrant, c'est-à-dire que comme j'ai peu de temps, je ne vais pas passer les morceaux en entier. Et donc ensuite, il y a eu l'Enfance Éternelle, qui est un petit peu la suite de tout ça, et je vais passer ce morceau. Discipline, ça s'arrête en 81-2, je crois. 83, et ça devient l'Enfance Éternelle en 83. C'est Jérôme qui est au clavier, on avait Denis au chant, Fabrice à la basse, Franck à la batterie, et je me souviens plus du nom du guitariste. Eyes on your eyes, nevermore being alive. Thank you. Voilà, je suis désolé, hein, Denis, mais je peux pas. Il fait 7 minutes. C'est presque du rock progressif. Ça dure. Et on avait tendance, nous aussi, à faire des morceaux longs. Pour vous dire à quel point c'est, l'enfance éternelle, nous, on répétait 335 routes de Vienne dans une espèce d'appartement. Un jour, on les avait tous débarqués comme ça. Donc, et il m'est arrivé aussi d'aller jouer du violon avec l'enfance éternelle, puisque j'avais fait ça au conservatoire. Mais après 3 ans d'arrêt, je crois que ça avait pas été très fructueux pour moi au niveau du son du violon, à moins de voir quelque chose de très pas beau. Bref. Donc on se mélangeait pas mal tout ça. D'autres groupes qui étaient assez intéressants, il y avait notamment qui était à un niveau là aussi entre deux, qui avait fait des maxi assez intéressants comme Petersen. Alors Petersen avait fait Affection Place avant, et Affection Place à l'époque n'avait rien sorti, rien produit à ma connaissance en tout cas. Et j'en reparlais avec Jean-Éric Perrin il n'y a pas très longtemps, qui faisait Frenchy Butt Chick. Il parlait souvent, enfin il a parlé de temps en temps de Affection Place, mais il m'a confirmé que même lui avait reçu, jamais reçu aucune cassette, quoi que ce soit. Et j'ai cru comprendre que là, ils avaient décidé de ressortir quelque chose. En tout cas, un exemple de ce que faisait, pas Affection Place, mais Petersen, quel groupe qui était après, que j'avais vu jouer un certain nombre de fois dans un concert que j'avais beaucoup aimé au West Side, ça s'appelle Tombe. Autre frustration, je coupe. Je crois que Petersen est ensuite parti un petit peu dans la peinture. Il y a peut-être une mode lyonnaise comme ça entre Clique Boris, enfin Hubert Mounier, Kent et d'autres qui font aussi beaucoup de dessins, de BD, de choses comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'il fait Petersen, mais je crois que c'est lui qui avait fait la pochette de leurs 33 tours, en tout cas, fait les dessins qui étaient là-dessus. Alors, évidemment, parce que j'en profite, je suis là, j'ai fait partie d'un groupe, on a fait 2 cassettes qui se sont vendues, et puis on a fait cet enregistrement en studio 16 pistes, qui était le studio Ampère, qui était à Caluire, je ne sais pas si des gens ici l'ont connu, qui avait comme ingé son Patrick Millet, et qui enseigne aujourd'hui au CNSM de Lyon, pour la musique, rapport musique-image. Et on avait enregistré ce truc. Alors hier, j'ai passé un morceau qui s'appelait Waves, aujourd'hui, je vais passer un morceau qui s'appelle The Birds. Et comme tout à l'heure, Denis me disait, j'assume tout, moi aussi j'assume tout, donc allons-y. Mouvement perpétuel, ça s'appelle The Birds. J'ai perdu les bandes master, donc c'est une copie de copie. Les autres, il n'y a pas de raison, je me coupe aussi. C'était un travail qu'on avait fait en studio et je me souviens très bien que c'était notre premier travail en studio, très important pour un groupe, et Kent me le disait aussi pour le premier album, j'en parlerai tout à l'heure, de Starshooter, c'est d'avoir quelqu'un en studio qui sache ce qu'on fait dans un studio et comment on travaille dans un studio. Nous, on arrive là-dedans, on se dit, tiens, on va enregistrer, on va jouer tous ensemble, et puis en avant. Mais pas du tout, on fait du multipiste, on enregistrait la batterie séparément. Et y a, dans ce morceau-là en particulier, moins dans l'autre qu'on avait fait avec Patrick Millet, mais il nous a fait corriger des choses en disant à un certain moment, ça passe pas ton truc, il faut faire autre chose, trouvez-moi une autre idée. Et donc, on était là comme des cons, parce qu'on payait quand même à la journée, à essayer de trouver une autre idée rapidement pour que ça passe, et ensuite à essayer de la jouer. Et comme on n'était pas terriblement bon techniquement, c'était compliqué de faire des choses. Il m'est arrivé de désaccorder la guitare pour pouvoir jouer un truc plus facilement, parce que j'arrivais pas à faire le doigté. Donc après, en live, c'était autre chose, on l'avait bossé, mais là, en studio, il fallait aller vite quand même. Voilà, donc on avait retravaillé, et puis le pont que je vous montre pas, en fait, a été complètement travaillé en studio et fait et construit en studio. Ce qui arrivait aussi, notamment avec un autre groupe que j'ai beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelle Aurelia Kreit. Je vais passer un petit bout de Arcos très rapidement, qui travaillaient eux avec Yves Rotache, et Rotache leur faisait remonter. Je me souviens d'une discussion où j'étais là. Votre pont, vous devriez le mettre après le deuxième couplet plutôt qu'après le troisième, ça irait mieux, on va faire du montage, on va couper, remonter, puis on va voir ce que ça donne, etc. Voilà. Donc très rapidement, un bout d'Aurelia Kreit, parce que je terminerai par un des groupes qui m'a le plus impressionné sur toute cette scène. Par leur technique et par le chanteur, etc. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, ça sert à quoi de continuer quand il y a des mecs comme ça qui chantent, quoi. Bon, ça, c'est Aurelia Kreit. Ça s'appelle Arcos. C'est un groupe qui aurait pu aller plus loin. Du vrai violon, une violoniste en fait.
Arcos était un chef adulé de ses guerriers, héros sans foi ni loi, sans roi, et son armée faisait trembler les royaumes du monde entier.
Alors voilà, tout ça, on peut se dire, aujourd'hui, ça sent bien son époque, ça sent bien le son d'une certaine début des années 80, etc., etc., le côté underground, le côté gothique parfois, etc. Mais il n'empêche que quand on était dans ce milieu-là, on était vraiment dans un mouvement et dans des courants qui étaient post-punk. Aucun de nous n'étions véritablement des punks au sens où on peut l'entendre avec les groupes les plus extrémistes. On était plutôt dans des trucs qui étaient, qu'on appelait la New Wave, parfois la Cold Wave, etc., mais ça... Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Et l'un des groupes ensuite qui était ni Cold Wave ni New Wave, mais qui avait un super chanteur, qui était un Américain, me semble-t-il, et qui est mort il n'y a pas très longtemps, c'était un groupe qui s'appelait Tells, qui eux étaient arrivés jusqu'à faire la première partie de Police, ce qui est quand même pas n'importe quoi. J'étais pas au concert, donc je sais pas s'ils se sont pris des canettes ou s'ils ont été couronnés de succès à ce moment-là. Mais je voudrais passer un morceau de Tells qui s'appelle Green Steps of Love, qui est un maxi qu'ils avaient sorti à l'époque et qui était absolument fantastique. J'ai passé un autre morceau hier, et je l'avais passé en entier, mais il faisait 6 minutes 44, donc là j'ai pas le temps. On va passer un extrait pour terminer de Green Steps of Love, qui va achever ce panorama qui est très très loin d'être complet. J'ai pas parlé d'International Scene, j'ai pas parlé de tout ça. Je le dis, et à la fois pour nous, Pind, enfin moi je dis Pind, même si les chefs disent Pind, moi je dis Pind, je trouve ça plus punk. Et pour la BM, j'ai tout ce que j'ai là, je l'ai en archive, donc il y a peut-être des choses à renumériser parce que je l'ai fait un peu à l'arrache, mais j'ai tout ça quelque part. Denis ici a certainement des choses de discipline ou de l'enfance éternelle que moi je n'ai pas, y compris des affiches, des flyers, etc. Donc je pense que et nous et la BM, on compte un peu sur toi et puis sur tous les musiciens ici qui étaient dans des groupes et que je ne connais pas ou ne reconnais pas, en tout cas pour l'instant. Voilà, je termine avec Green Steps of Love, un panorama très incomplet malgré tout, mais qui donne une idée de ce que pouvait être cette scène. Un moment où la presse a presque dit d'ailleurs qu'il ne se passait plus rien à Lyon. Entre 77 et 83, il y avait la scène, puis entre 83 et 88, il ne se passait plus rien. Bah, si, il se passait des choses, puisqu'on était là quand même. Moi, ça me fâche de dire qu'il ne se passait rien. On était là, on jouait. Green Steps of Love.
Out aloud, my dear companions. Out aloud, my dear companions. Oh, we can dance till the morning. Don't still stand still. Remember him saying, you're my sweet love.
Et donc, il ne faut pas oublier non plus tous les autres, tous ceux qui n'étaient pas punk, les Gana Fool, Factory, Killdozer, qui étaient des groupes qui n'étaient pas dans la mouvance, punk, mais qui étaient des groupes de rock. Et alors, quand j'ai préparé ça, je vous ai parlé du Best de 1981. Et il y a une image, il y a quelques images, des groupes, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, Tintin Reporter, par exemple, Fragile, qui avait fait un bel album, 5-6 titres, je ne me souviens plus. Et là, tout en bas, il y en a un qui est Robert Lapassade. Il est là en 81. Et en 89, quand Best fait un nouvel article qui s'appelle « Lyon, le réveil rock », parce qu'il y avait le truck, parce qu'il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'il y avait une réémergence de salles, ben, il y en a un qui est en photo dedans, 8 ans après. Le seul qui reste, c'est Robert Lapassade. Et Robert Lapassade, il sera là tout à l'heure. Je ne sais pas s'il n'est pas déjà là, d'ailleurs. Il n'est pas là, bon. Et c'est un des personnages importants par son travail à la radio, par les groupes qu'il a fait, etc. etc. Donc, il n'a jamais été punk. Il m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps. Il dit « Moi, je ne suis pas un punk ». Non, mais n'empêche qu'avec des acteurs comme ça, il y a des tas de gens qui ont pu faire des choses à Lyon. Et c'est là-dessus que je terminerai. Merci.